Ce culte est intitulé L'attente et l'espérance. Depuis dimanche dernier, le 29 novembre, nous sommes dans ce qu'on appelle la période de l'Avent. Alors, la période de l'Avent, chacun le sait sans doute, elle est délimitée par les quatre dimanches qui précèdent Noël. Et elle a été instaurée dans la liturgie catholique très très tôt, hein, enfin très tôt, dès le VIe siècle. Et le but, c'était d'inciter les croyants à se préparer intérieurement à fêter Noël. Alors aujourd'hui, nous sommes le deuxième de ces dimanches et il y en aura encore deux jusqu'à Noël. L'Avent avec un E, A-V-E-N-T, c'est un mot qui a la même origine que le mot avènement. Et voici donc l'indice, quand nous chantons, nous, à Noël, Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement, nous célébrons simplement la venue, l'arrivée de Jésus dans ce monde. Et fêter Noël, dans cette approche, c'est se remémorer chaque année que Dieu s'est fait homme parmi les hommes, un avènement, une arrivée donc, qui est fêtée comme un événement inouï et extraordinaire. Alors on peut adhérer ou pas à cette volonté de rythmer l'année de façon liturgique, comme l'a fait progressivement l'Église catholique, qui fait débuter d'ailleurs son cycle liturgique annuel par la naissance de Jésus et achève ce cycle l'année d'après, fin novembre. Et toutes les églises de la Réforme n'ont pas forcément pour habitude de scander toute une année d'une manière aussi précise. Toutefois, même dans la liturgie de l'Église réformée, on retrouve parmi les périodes retenues, privilégiées, cette période de l'Avent comme un temps qui est spécialement marqué. Et pour quelle raison? La diapositive suivante, c'est le temps de l'attente. On peut donc se dire que cette période, c'est l'opportunité de revivre le temps de l'attente. Mais l'attente de quoi et l'attente de qui? Une lecture courante à cet égard dans cette période qui précède Noël est celle du livre d'Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 10, et nous lisons le texte à l'écran. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après les apparences. Il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les petits avec justice. Il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. Alors, ce ne sont là que les cinq premiers versets. Mais ils font déjà porter les regards vers l'avenir, vers celui qui va venir. La descendance de David, et c'est précisément ce que le peuple hébreu attend de cette descendance, nous le savons, un Messie. L'Avent, cette période que nous revivons avant Noël, ça serait donc une possibilité de revivre cela, de se remettre en état d'attente, l'attente de la venue du Fils de Dieu. Alors, en toute logique, certains pourraient dire, mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est bien utile? Et on pourrait ajouter que, puisque la venue de Jésus a déjà eu lieu, à quoi cela rime de se remettre en situation d'attendre à nouveau, chaque année, dans cette période de l'Avent? Noël, encore, on peut comprendre que ça se fête. C'est le souvenir heureux de la naissance de Jésus. Mais la période de 4 semaines qui précède, à quoi cela rime? Est-ce que ça serait pour comme on dit maintenant, faire mémoire, une forme de cérémonie du souvenir, comme celle que l'on connaît pour rendre des honneurs aux combattants des générations qui nous ont précédés. Est-ce que c'est de la commémoration ou quelque chose comme ça? Et quel est le sens que ça a de se remettre encore une fois en état d'attendre? Et est-ce que nous ne serions pas dans une forme de rite sans signification? Alors oui, encore une fois, pourquoi reproduire cette période de l'Avent? Et c'est alors que on se pose peut-être enfin les bonnes questions. Est-ce que c'est nous qui attendons en définitive? Ou est-ce que c'est pas plutôt notre Dieu qui nous attend? La diapositive suivante pose cette question: qui attend qui? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui attend que je pose mes courses de Noël? Est-ce que ce n'est pas lui finalement qui attend que j'arrête de courir après le dernier cadeau qui manque, après la dernière déco de Noël, la dernière bougie, la dernière bonne bouteille de vin pour le repas de famille? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui attend ma venue, mon arrivée, mon mouvement vers lui, mon avènement en quelque sorte? Et si l'avance n'était pas que cette mémoire entretenue, ce rappel annuel de la venue de Jésus, mais plutôt un moment, celui de faire un mouvement vers notre Père, qui attend que nous arrêtions de courir sans regarder où nous allons. Qui attend qui dans cette période de l'Avent? Dans les familles, il y a une expression favorite que l'on rencontre souvent dans la bouche des enfants. C'est le fameux « j'arrive » quand on les appelle. Et ils n'arrivent jamais. Ils continuent à jouer et on les rappelle et ils répondent à nouveau « j'arrive ». Nous sommes un peu semblables à ces enfants. J'arrive, mais il y a 1000 choses à faire avant que j'arrive. Dans cette période de l'Avent, pour ma part, je vois donc moins le souvenir et la commémoration de la période qui précède la naissance de Jésus que le moment où Dieu m'appelle et me donne l'occasion de dire « enfin, j'arrive » et de venir vraiment vers lui. Oui, le temps de l'attente, le temps de l'Avent, pardon, ce n'est pas celui de l'attente. C'est le temps du mouvement. Au contraire, c'est le moment de dire « j'arrive » à notre Père. C'est le moment de le rejoindre. Parce que lui nous avait déjà rejoints lors du premier Noël. Sur la diapositive qui suit, vous allez lire un court extrait d'une méditation d'un prêtre catholique qui dit les choses suivantes. Le temps de l'Avent nous invite, dans la lumière de notre foi, à rejoindre l'immense appel qui monte de la création à l'adresse de son Créateur. Quel dynamisme et quelle joie, quelle force et quel élan pouvons-nous puiser dans les merveilles de ce monde tourné vers Dieu si nous savons communier à cette orientation fondamentale de tout le créé? Dans le bruit ambiant et les flonflons de la fête en ce moment, dans le flot des musiques de Noël qui se déversent des haut-parleurs des magasins, dans cette fausse joie fabriquée de guirlandes et de papiers cadeaux chez Decathlon ou Casino, je vis dans une bulle temporaire, une sorte de moment ouaté. L'esprit de Noël, selon l'expression consacrée. Mais quand je sors de Decathlon ou de Casino et que je m'éloigne de la musique de supermarché, tout d'un coup, les mots du psalmiste me rattrapent et me projettent dans une toute autre dimension. Et c'est ce que, sur la diapositive suivante, dit si bien le psaume 19, versets 2 à 5. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe l'autre. Une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre et leurs accents aux confins du monde. Oui, c'est cet immense appel qui monte de la création à l'adresse de son Créateur que je suis appelé à rejoindre. Qui attend qui? C'est Dieu qui attend que je le rejoigne. Diapositive suivante nous amène vers la suite de notre méditation, rejoindre Dieu par l'espérance. C'est vers ce Dieu-là que je suis appelé à faire un mouvement et à contrario, je n'ai plus besoin d'attendre ou de faire semblant d'attendre encore une fois la naissance miraculeuse d'un enfant sauveur. Tout cela est derrière nous, tout cela est accompli. Et notre espérance, ça n'est plus celle de la venue, c'est en fait celle du retour. Notre espérance n'est plus celle de la venue, c'est celle du retour. Ce que nous espérons, ce n'est ni plus ni moins que de retrouver la présence de Christ Voilà l'objet de notre espérance. Et pour une raison simple, parce que nous savons ce que vaut cette espérance. Nous en connaissons la valeur. C'est Pierre, dans sa première lettre au chapitre 1er, versets 3 à 5, qui l'exprime clairement. Et c'est la diapositive suivante. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Notre espérance de chrétien, dans cette période de l'Avent, elle se nourrit de quoi fondamentalement? Elle se nourrit de la résurrection de Jésus. Et cette résurrection, c'est pas moi qui le dis, c'est Pierre, elle nous ouvre quelle perspective? Celle d'un héritage qui est pour l'instant caché. Le texte dit « tenu en réserve » et que nous ne pouvons que deviner. Voilà la valeur de cette espérance. Il y a quelque chose que nous n'avons pas à attendre, mais à quoi nous pouvons vraiment nous attendre. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, finalement, espérer, ce n'est donc pas simplement attendre. Espérer, c'est au contraire s'attendre à quelque chose, le deviner, le pressentir, et le vivre même presque comme par anticipation. Il y a un autre texte qui souligne à quel point cette espérance nous fait entrevoir ces autres réalités et nous en approche. Et c'est le texte qui suit, pris dans Hébreux 6, versets 19 et 20. Cette espérance est pour nous comme l'ancre de notre vie, on vient de le chanter, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau, dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur. Car il est devenu grand prêtre pour l'éternité dans la ligne de Melchisédek. Notre espérance, elle nous fait toucher du doigt d'autres réalités par anticipation. Nous sommes en fait juste derrière le rideau. L'auteur de l'Épître aux Hébreux emploie une image qui ne peut que parler aux chrétiens d'origine juive. Dans le temple, nous le savons, un voile protège un endroit, le lieu très saint, où seul le grand prêtre peut pénétrer. Et ce que dit l'auteur ici, c'est que Jésus y est entré, oui, comme un grand prêtre, mais surtout qu'il est désormais ce grand prêtre pour l'éternité, et pour l'éternité de l'autre côté du rideau, qui nous sépare encore de la présence de Dieu. Et nous, nous sommes où? Nous sommes juste derrière le rideau. Alors un rideau, c'est pas un mur. Il permet de deviner sans voir, il permet de pressentir sans toucher. Quand vous mettez un enfant derrière un rideau, il n'a qu'une envie, c'est de l'écarter pour voir ce qu'il y a derrière. Et espérer, c'est n'avoir qu'une envie, celle d'écarter le rideau. Voilà pourquoi la période de l'Avent ne peut plus être à notre époque seulement la célébration rituelle de la naissance de Jésus. Jésus lui-même nous a fait passer à un autre avant, à une attente orientée vers son retour. Regardons le passage de 1 Jean 3, verset 2. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et c'est un motif pour nous, sans doute, dans cette période, de réorienter notre espérance. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, avant de conclure. Réorienter notre espérance, la diapositive suivante le met devant nos yeux, pour savoir comment vivre aujourd'hui ce temps de l'Avent. Alors, on l'a vu, pas dans un esprit de simple commémoration, d'un fait historique, et nous le savons, fondamental de la naissance de Jésus, plutôt en saisissant l'opportunité d'en faire un temps de mouvement vers notre Père, ou peut-être pour certains d'entre nous de retour vers notre Père, et ce faisant avoir conscience, comme nous le faisons, de le faire à l'unisson de la création. Vous vous en souvenez, ce magnifique texte, un jour en informe un autre, une nuit à une autre nuit, transmet la connaissance de l'œuvre de ses mains. Et puis enfin, nous attendons désormais à son retour, puisqu'il nous l'a promis. Une vigilance cependant, et ce sera notre diapositive suivante, nous connaissons ce qu'écrit Paul aux Romains dans le passage que nous allons lire à l'écran, Romains 8, versets 22-23. Nous le savons bien, en effet, écrit Paul, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré. Une vigilance parce que on pourrait lire ce passage à la voix passive et l'interpréter ainsi. La réalité présente de la création est dépassée et cela ne vaut donc plus la peine de s'y investir puisque nous n'avons qu'à attendre son renouvellement. Mais ce n'est certainement pas l'intention de Paul que de nous encourager à la passivité. Il pointe là plutôt notre aspiration profonde à passer, comme on le disait tout à l'heure, de l'autre côté du rideau. Et il faut lire en écho à ce texte de Paul un deuxième passage dans 2 Pierre 3, versets 11 à 14. C'est le suivant. Mais nous attendons comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Certes, Pierre est aussi conscient de la promesse, comme Paul, et il nous la rappelle lui aussi, mais il en tire une conséquence précise derrière, c'est « faites tous vos efforts ». Et l'attente n'est donc pas synonyme d'arrêt de notre croissance et synonyme d'une passivité qui serait béate. L'avant, donc revenons-y, c'est donc une riche période d'espérance, mais d'espérance qui est réorientée vers le retour de Christ. Et puisse-t-il nous trouver, comme le dit Pierre, dans la paix qu'il donne, pure et irréprochable. Je vous laisse, en guise de conclusion, une dernière diapositive qui nous rappelle Hébreux 10, 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen.